Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Bonjour Monseigneur Ayé.
Bonjour.
Bonjour Violaine Ricourt-Dumas.
Bonjour, bonjour à tous.
Nous enregistrons cette émission le 9 novembre 2015. Nous allons revenir bien sûr sur le synode sur la famille qui s'est tenu à Rome. Nous allons parler également de ce qui s'est passé à l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes, d'où vous revenez, Monseigneur Ayé. Et puis nous parlerons aussi d'événements diocésains et puis de l'année de la miséricorde qui va bientôt commencer. Tout d'abord, au lendemain de cet Angélus où le pape a pris la parole pour faire une mise au point par rapport à ce qu'on appelle dans les médias le Vatilix 2. Vous, quelle est votre réaction sur ces histoires qu'on entend sur ce qui se passe au Vatican ?
Écoutez, je dois dire que je l'ai découvert en revenant de Lourdes, parce qu'à Lourdes, on n'en a pas beaucoup parlé. Vous imaginez qu'on était quand même très, très occupé par beaucoup d'autres choses. C'est un épisode de plus, je pense, les difficultés que les papes successifs depuis Paul VI ont à réformer la curie. À cause de quoi ? À cause d'une administration qui est très lourde, comme toutes les administrations, qui fonctionne aussi avec des habitudes, comme toute administration, il y a beaucoup de monde qui travaille, où je crois qu'il y a des personnes tout à fait respectables, des cardinaux, des secrétaires, des officiaux, qui sont même de très saintes personnes, tout à fait dévouées au service de l'Église, mais où il y a quelques vilains petits canards, qui profitent toujours de l'institution pour empêcher les vraies réformes de se faire, parce qu'ils y trouvent certainement de l'intérêt.
Et vous, ces réformes, vous les soutenez ?
Bien sûr. Tous les papes ont voulu réformer. Je me souviens avoir appris que Jean-Paul II, au début de son pontificat, avait prévu un audit qui a été fait par le canal Gagnon à l'époque, qui était un Canadien qui est mort maintenant, et que le résultat de cet audit avait été... révélait beaucoup de choses, beaucoup de dysfonctionnements, avaient été cachés placés dans une chambre forte, et dans un coffre fort, et le lendemain matin, il avait été subtilisé, ce qui fait que le pape, finalement, qui était un homme de terrain, avait renoncé aux réformes qu'il avait prévues, parce qu'il aurait fallu recommencer tout un audit qui avait déjà duré un an. On sait comment Benoît XVI n'a pas réussi, lui non plus, à réformer cette curie qui a conduit au premier Vatilix et qui l'a conduit finalement à faire un audit pour son successeur et j'allais dire à annoncer la cessation de sa charge. J'espère que le pape François pourra aller jusqu'au bout de la réforme.
Alors on reste au Vatican avec vous, Monseigneur. Du 4 au 25 octobre, c'était l'Assemblée Générale Ordinaire du Synode sur la famille. Est-ce que vous avez eu des échos sur le climat dans lequel s'est déroulée cette Assemblée des évêques ? Est-ce qu'on peut dire que l'Esprit Saint a soufflé sur Rome ?
Alors moi je le crois d'ailleurs, ne serait-ce qu'à la lecture de la relation finale, qui est quand même profondément différente de l'Instrumentum Laboris, qui était finalement le texte final de la première assemblée extraordinaire du synode, et on voit en effet un texte extrêmement équilibré, en retrait devant un ensemble d'innovations qui ne recueillait pas la faveur de la grande majorité des pères, et qui correspond aussi au témoignage que nous en avons eu de la part non seulement de nos délégués au synode, mais d'autres. J'étais à table avec un évêque hongrois qui était invité comme des représentants de tous les épiscopats européens à notre conférence, à notre assemblée plénière, et qui lui avait participé au synode, il disait, mais quand on était à l'intérieur du synode, c'était complètement différent de ce que disaient les médias, qui insistaient beaucoup sur les confrontations, sur les difficultés que nous pouvions y avoir. Il y a eu un climat extrêmement serein et dont la sérénité a grandi jusqu'on peut dire la quasi-unanimité avec laquelle les pères ont voté chacun des paragraphes de cette relation finale. Et moi, je me dis que le pape avait tellement demandé qu'on prie pour le synode, j'ai la naïveté de croire et de penser que tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons entrepris pour nous associer par la prière à cette assemblée synodale a porté vraiment du fruit.
L'Église... Vous faites allusion notamment au pèlerinage que vous avez organisé entre Alençon et Lisieux.
Alors sans doute, mais...
Entre
Solesmes et Alençon. Mais je ne parle pas seulement de ça. Évidemment, je pense que c'est une satisfaction pour nous que ce petit événement un peu anecdotique par rapport à cette masse de prières qui a dû monter de l'Église universelle pour accompagner le synode. N'empêche que c'est vrai, je pense que des démarches comme celle-là ont été été très efficace pour permettre ce climat de foi et de prière, de respect les uns des autres, avec évidemment des voix différentes, mais ça c'est bien normal, pour aboutir, me semble-t-il, à un tel résultat.
Alors, le 18 octobre, il y a eu cette canonisation d'un couple, les époux Martin, les parents de Sainte Thérèse de Lisieux, ça a aidé sûrement aussi.
Alors je pense que ça n'est pas indifférent que le pape ait choisi de canoniser pour ce couple parent de Sainte Thérèse de Lisieux, le premier couple à avoir été canonisé en tant que couple, en marge du synode. Je pense qu'il a voulu aussi donner un exemple concret de cet évangile de la famille, comme il le disait sans cesse, que nous voulons proclamer à frais nouveaux dans le monde d'aujourd'hui. Et qui montre bien que la pastorale de la famille, comme je le dis moi-même souvent, doit être vraiment resituée dans la perspective de la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés en vertu de notre baptême, quelles que soient les difficultés, les épreuves et parfois les impasses de la vie de nos personnes, de nos couples, de nos familles.
Alors finalement, quels ont été les enjeux de ce synode? Il y a eu beaucoup de paroles qui ont été dites sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Le cardinal Schönborn lui a déclaré « Ceux qui attendent que le synode donne des règles générales pour tous les problèmes seront déçus. On peut le prédire dès maintenant, il y aura deux groupes très déçus, les rigoristes et les laxistes. » Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est évident que les enjeux du synode n'étaient pas nécessairement ceux qui avaient été pointés par les médias. En fonction des évolutions culturelles de notre temps, qui voulait absolument que le synode oriente toute son attention sur des questions très particulières, emblématiques en effet du divorce, pourrait-on dire, entre l'enseignement de l'Église en matière de mariage et de famille et les évolutions culturelles de notre société d'aujourd'hui, mondialisée d'ailleurs, qui n'est pas seulement le propre de nos sociétés occidentales, parce que finalement le monde est un grand village global, à travers en particulier les réseaux sociaux, qui se développent même en Afrique, en Océanie, en Asie et ailleurs. Donc c'est sûr que les médias auraient bien voulu que cette pomme de discorde, comme on l'a présentée, soit vraiment le point focal des travaux du synode, c'est-à-dire l'accès au sacrement des fidèles divorcés ou mariés. On voit bien que les enjeux ont dépassé largement tout cela, qu'il s'agissait de pointer les difficultés de la famille aujourd'hui, non seulement en Occident, mais dans le monde entier, qu'il s'agissait en fonction de cette analyse de rappeler l'évangile de la famille, c'est-à-dire l'enseignement pérenne et constant de l'Église depuis 2000 ans, puisé dans la révélation, que ce soit la Genèse, que ce soit l'Évangile, et transmis par 2000 ans d'expérience de la famille et du mariage par l'Église. Et ensuite, insistant essentiellement sur la manière de rejoindre la vie concrète des couples et des familles d'aujourd'hui avec cette lumière de l'Évangile de la famille. Voyez, je crois que le grand enjeu, il peut s'exprimer à travers un mot qui semble avoir été le fil rouge de l'ensemble des travaux du synode, tel que cela apparaît d'ailleurs très bien dans ce document final, c'est le mot accompagnement. Qu'on peut joindre aussi un autre mot qui a été donné, qui est celui de la pédagogie divine. Comment nous accompagnons les personnes, mais comment nous essayons de leur transmettre cette lumière pour qu'elles se lèvent sur leur vie concrète, quelles que soient les difficultés qui sont les leurs. Après, le reste, je dirais, c'est des points plus particuliers sur lesquels le synode n'a pas tranché. Peut-être que le pape tranchera d'une autre manière dans une exhortation apostolique. En tout cas, pour l'instant, je dirais qu'on en est là.
Alors vous faites allusion justement au rapport final qui a été publié par les évêques en attendant finalement l'exhortation apostolique du pape. Comment est-ce que vous accueillez ce rapport final et puis bien sûr les fameux paragraphes 85-86 sur les divorcés remariés qui en fait, si j'ai bien compris, incite à traiter au cas par cas parce que la responsabilité n'est pas la même selon la faute entre guillemets commise entre une personne qui a été abandonnée par son mari ou une personne qui a rompu son mariage volontairement. Comment est-ce que vous accueillez cette parole des évêques? Est-ce que vous êtes d'accord?
Alors quand vous dites qui vous semble lire dans le texte 85, le numéro 85 du synode, que finalement il s'agit d'assumer un discernement au cas par cas, vous faites davantage référence, à mon avis, à l'Instrumentum Laboris, qui proposait, à la faveur du groupe germanophone, d'ailleurs essentiellement, une alternative à la discipline sacramentelle actuelle de l'Église qui dit bah, jamais il n'est possible d'accéder au sacrement de Christ et de réconciliation en cas de rupture du divorce, même si l'imputabilité subjective, comme cela est rapporté, peut être atténuée et même annulée par les circonstances. Or, il semble qu'en effet, cette alternative qui était proposée par la première relation du synode extraordinaire, donc l'insurmentum laboris de ce synode, a été corrigée, si vous regardez bien le texte. Parce qu'en disant cela, on a l'air de dire, finalement, on reste clair sur la norme générale, c'est ce que disaient les Allemands d'ailleurs, hein, mais en fonction des circonstances, atténuant ou annulant toute responsabilité, on pourrait, au cas par cas, eh bien, apporter des exceptions à la règle. Cela dit en passant, je vous ferai remarquer que cette conception de la morale est tout à fait préconciliaire. Elle se situe dans ce qu'on appelle la casuistique, qui a alimenté une grande querelle dans l'histoire de la morale catholique qui s'appelle la querelle probabiliste, où il s'agit de donner tantôt plus de force à la loi, à ce moment-là c'est le rigorisme, tantôt plus de force à la liberté, à ce moment-là c'est le laxisme. Et on est toujours dans une corde raide parce que la loi et la liberté sont finalement opposées l'une à l'autre, comme en conflit, comme en tension, mais extérieures l'une à l'autre. Or cette vision a été largement dépassée par le Concile Vatican II, en particulier dans la Concession Gaudium et Spes, en indiquant que la loi, elle n'est pas d'abord extérieure à nous, comme un fardeau impossible à porter, mais elle est intérieure à notre cœur. Et il s'agit de redécouvrir cette loi qui parle dans le sanctuaire intime de la conscience. C'est pourquoi le texte parle en effet de l'importance du jugement de conscience, mais, comme vous l'aurez lu, il s'agit d'une conscience droitement formée, qui ne peut jamais être séparée des exigences de vérité, de charité, et qu'on sera toujours dans une attitude d'humilité, de discrétion, d'amour de l'Église et de son enseignement dans la recherche sincère des volontés de Dieu. Donc, étudier au cas par cas, oui, pour une meilleure intégration des personnes en situation irrégulière dans l'Église. Mais rien n'est dit à ce propos sur l'accès au sacrement. D'ailleurs, ça n'est même pas signalé. Et donc en retrait par rapport au texte de l'Instrumentum Laboris, qui lui prévoyait la possibilité d'accéder au sacrement d'Eucharistie et de pénitence.
Alors, dans notre diocèse, est-ce que des choses sont déjà mises en œuvre, finalement, concernant la pastorale familiale, avant même, finalement, toute exhortation apostolique du pape ?
On sent bien que le fil rouge étant l'accompagnement, c'est certain que dans notre diocèse, déjà en fonction du premier synode, et qui s'est, je dirais que l'essai a été transformé au second synode de manière assez unanime pour les pères synodaux, eh bien nous avons mis, nous, en place des structures d'accompagnement. Voilà. Donc il va y avoir le lancement, très prochainement maintenant, de l'accueil Louis et Zélie, hein, qui permettra à toute personne en recherche d'éclairement, d'éclairage, de conseils, d'écoute dans le domaine de l'affectivité, de la fécondité, de la vie de couple, de la vie de famille, etc. Donc grâce à l'aide d'une quinzaine de bénévoles formés qui aideront les gens, qui les écouteront, qui leur proposeront un accompagnement, qui pourront les orienter aussi vers telle ou telle personne ou organisme ou association plus spécialisée. Et puis, dans le cadre de la pastorale familiale, nous cherchons à organiser des réunions, des rencontres, des journées de rencontres pour les divorcés fidèles à leur mariage, pour les divorcés, les fidèles divorcés remariés, etc. Donc vous voyez, je crois que tout ça est pour nous un beau stimulant pour mettre en place aussi du point de vue de la préparation au mariage, car comme vous le savez, ça a été un des axes les plus importants de la réflexion pastorale des pères synodaux que d'insister davantage sur des programmes cohérents de préparation au mariage.
Radio La Pour Dire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Hayer, vous étiez à Lourdes du 3 au 8 novembre, vous étiez avec vos collègues évêques. C'est toujours une joie, je suppose, pour vous d'être avec les autres évêques de France.
Oui, parce que c'est vrai que pour nous, c'est l'occasion de nous retrouver. Bon, c'est vrai de retrouver aussi des amis évêques avec lesquels on a forcément plus d'affinité par la génération, par les préoccupations que nous portons, eu égard à nos diocèses aussi d'ailleurs, hein. Et puis notre formation, nos sensibilités, comme on dit. Mais en même temps, surtout de retrouver l'ensemble des évêques, parce que c'est vrai que notre assemblée qui, d'ailleurs, manifeste de plus en plus des différences quand même, hein, d'approche, de conception, de la pastorale, de ceci, de cela. Bon, cependant, ce qui ne se dément pas, c'est la fraternité qui nous unit et qui est pour beaucoup, dont le creuset est pour beaucoup la vie de prière que nous avons ensemble pendant tous ces jours. Hein. Nous avons l'office récité ensemble, nous avons l'Eucharistie tous les jours concélébré ensemble. Donc tout ça est certainement une source de ce climat de fraternité qui, même quand il y a des moments de tension, eh bien, n'est pas démenti dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Alors c'est vrai que c'est toujours une joie de rencontrer des évêques, de pouvoir, dans les pauses qui durent une demi-heure à chaque fois, avoir le temps de parler avec les uns les autres, le soir, au cours d'un repas. Bon, voilà, tout ça est tout à fait agréable.
Alors justement, entre évêques, vous êtes revenu bien sûr sur le synode sur la famille. Vous l'avez dit, il peut y avoir des différences de sensibilité entre les évêques. Est-ce que sur ce sujet propre du synode sur la famille, notamment la question des divorcés et mariés, est-ce que vous avez réussi à discuter, à ce que le climat soit apaisé?
Alors c'est ça un petit peu la difficulté de nos assemblées plénières, c'est que nous avons tellement de sujets à traiter. Quand je regarde le planning, là, c'est inimaginable. Hein, on passe une heure sur un sujet et il peut y avoir 15 sujets différents en 6 jours. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais ce qui veut dire que, par exemple, pour le synode de la famille, il y a eu un compte-rendu qui nous a été fait par tous nos délégués, c'est-à-dire le cardinal 23, Monsieur Jam, Monsieur Ulrich, Monsieur Brunin, Monsieur Kudziak, qui est l'évêque des Ukrainiens, de France, de Belgique, de Suisse, qui représentait aussi notre assemblée plénière, notre conférence épiscopale, et Monsieur Pontier. Alors déjà ça, sur une heure prévue pour l'échange, prévue sur la question du synode, il y avait déjà quasiment trois quarts d'heure de compte-rendu. Très intéressant d'ailleurs. Hein.
Bon, on avait peut-être parlé aussi lors des repas ou
alors,
de façon informelle.
Mais après, il y avait 10 minutes, un quart d'heure de débat. Donc ce qui était assez particulier, ce que je dirais, c'est qu'on sent que dans l'interprétation du texte du synode, et en particulier les fameux numéros 84, 85, 86, il y a ceux qui sont généralement les plus anciens, qui y voit quand même, malgré tout, même si c'est pas dit, une certaine ouverture à une possibilité d'évolution de la discipline sacramentelle de l'Église. Et puis, des jeunes évêques, je pense en particulier à une intervention très remarquée de Mgr Olivier de Germay, hein, évêque d'Ajaccio, qui a quand même fait l'Institut Jean-Paul II et quand même très compétent dans ces domaines de la famille, qui montre combien, non, il ne faut pas le lire comme ça, ce n'est pas écrit, et puis qui apporte des arguments que nous avons apportés souvent pour dire qu'il n'y a aucune raison que la discipline sacramentelle de l'Église évolue. Vous voyez, donc on voit quand même qu'il y a une petite ligne de démarcation entre des évêques plus consensuels, d'une certaine génération, et qui, d'une certaine manière, pensent qu'il y aura une évolution, même dans la manière d'accéder au sacrement. Et puis des évêques d'une autre génération, qui est plutôt ma génération d'ailleurs, hein, qui sont plutôt les nouveaux évêques des 10 dernières années, qui ont plutôt une position plus conforme à la discipline actuelle.
Est-ce qu'il y a un risque d'avoir une pastorale familiale à deux vitesses, finalement, suivant évêque de chaque diocèse?
Alors c'est sûr que c'est toujours un risque, et d'ailleurs vous n'êtes pas sans savoir que certains pensent que le pape ne donnera pas de ligne ferme et que finalement chacun sera renvoyé à son diocèse et à sa manière de traiter les choses là où il est. Moi, ce que j'espère quand même, c'est qu'il y ait une ligne claire, quoi, hein, qui soit donnée par le pape dans son exhortation apostolique. Mais pour l'heure, nous n'avons qu'un seul document, c'est celui de la relation finale. Personne ne nous indique, rien ne nous indique dans cette relation finale qu'il faille changer la discipline actuelle de l'Église.
Le 30 novembre prochain va avoir lieu l'ouverture de la COP, ce fameux sommet mondial pour le climat. Vous en avez parlé avec les évêques à Lourdes.
Alors on a eu une séquence en effet sur la COP 21 dont on a saisi l'enjeu par rapport essentiellement à l'encyclique du pape François Laudato Si, pour voir comment nous, Église, on pouvait s'approprier un peu ce débat et entourer par des propositions, tant à Paris qu'à Saint-Denis, où se tiendra cette conférence sur le climat, qui permettent d'apporter le langage de l'Église sur une écologie qui n'est pas réduite aux questions d'environnement, à des questions techniques, mais qui est une écologie intégrale, hein, comme l'a développé le pape François dans son encyclique, et comment on pourra inviter les fidèles à s'associer à travers des démarches spirituelles, des débats éthiques, à cette grande conférence sur le climat.
Vous allez présenter l'encyclique, parce que vous ne l'avez pas fait, je crois, encore dans Audiocésain.
Je l'ai plus ou moins fait, mais on n'a pas fait de conférence, et peut-être que ça pourrait être l'occasion, en effet, de revenir sur l'encyclique, même si c'est un document énorme, et que je vois que le temps passe, et puis on est très pressé de quantité d'autres sujets, et donc ça n'est pas toujours facile de prendre le temps pour le faire.
Vous avez parlé des personnes qu'on appelle les climato-sceptiques. Ceux qui remettent en cause, finalement...
Ça n'a pas été évoqué, non. Quasiment au sein de notre Assemblée, on n'a pas tellement parlé des climato-sceptiques.
Alors un autre sujet, Monseigneur, qui a été évoqué durant cette Assemblée plénière, c'est l'articulation entre la pastorale des jeunes et la pastorale des vocations, un sujet qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans notre diocèse? Est-ce qu'il y a une véritable articulation entre ces deux pastorales?
Alors je crois qu'il y a un souci dans la pastorale des jeunes, en effet, de susciter ou d'interpeller les jeunes par rapport à une vocation, c'est-à-dire un appel de Dieu, c'est-à-dire un projet de Dieu sur leur vie.
C'est pas forcément
la vocation sacerdotale, en effet. Hein. Je crois que c'est surtout la vocation comme appel de Dieu et encore une fois comme discernement de ce à quoi Dieu nous appelle. Hein. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Dans le contexte d'aujourd'hui, qui est un contexte... Je dirais où l'identité peut être un peu brouillée, hein, à travers le brouillage précisément des repères dans notre société d'aujourd'hui, dans lequel grandissent les jeunes en particulier, l'horizon assez facilement bouché, la difficulté de s'engager parce qu'il y a une fragilisation de la confiance chez les jeunes à travers le monde dans lequel ils vivent et ils grandissent, que ce soit la famille qui est souvent déjà fragilisée, la société qui n'a pas de repères, l'école qui peine à apporter des repères clairs pour construire une identité humaine et chrétienne quand il s'agit d'enseignement catholique. C'est sûr qu'il faut, quand même rejoindre ces jeunes et les aider à travers une intériorisation sans doute, un éveil à la vie intérieure, à se poser quand même la question de savoir Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel type de personne je voudrais être demain? Voilà. Il n'est pas interdit de permettre à des jeunes de rêver. Hein, c'est toujours un jeune fait toujours un transfert dans quelques héros qu'il affectionne dans ses bandes dessinées, dans ses lectures, dans cette culture même d'aujourd'hui, hein, et de l'aider à se poser quand même réellement cette question. Quel type de personne tu voudrais être demain? Voyez, je crois que ça c'est très important et je compte bien interpeller la pastorale des jeunes au cours du forum de la pastorale des jeunes le 11 novembre prochain sur cette question. Et moi, j'ai dit aussi lors de notre échange sur les questions à l'Assemblée plénière que je pense qu'il y avait besoin, à côté de la famille qui était souvent très fragilisée, à côté de l'école qui ne remplissait pas tout à fait et toujours son rôle de subsidiarité par rapport à la famille, qu'il y ait l'émergence ou le développement de tiers-lieux éducatifs où les jeunes qui peuvent quand même avoir une aspiration chrétienne, à une vie chrétienne, puissent découvrir que la foi, c'est une vie, et être ainsi plus disponibles en intégrant davantage dans leur vie leur foi, eh bien, à un appel possible du Seigneur, un discernement de la volonté de Dieu sur leur vie, de ce projet que Dieu a sur chacun d'entre nous.
Vous pensez par exemple au mouvement qui existe dans notre diocèse?
Alors, je pense au mouvement, mais je pense aussi à la Maison Samuel. À la Maison Samuel, qui se situe exactement dans ce sens, pour l'instant, pour des garçons, mais je pense que ce serait intéressant aussi qu'il puisse y avoir un internat catholique de filles qui puisse, elles aussi, se poser les mêmes questions que les garçons dans la Maison Samuel.
Nous achevons aussi l'année de la vie consacrée bientôt, le 2 février prochain, ce sera la fin, la clôture de l'année de la vie consacrée. Vous en avez parlé également à Lourdes.
Oui, il y a une longue séquence sur la vie consacrée, très intéressante, préparée par l'organisme ad hoc au sein de notre conférence épiscopale. Et donc on nous a donné pas mal d'éléments pratiques, aussi canoniques, pour mieux exercer notre vigilance épiscopale sur la vie consacrée, non seulement pour les encourager, les accompagner, promouvoir la vie consacrée, qui reste essentielle à la vie de l'Église, et aussi cette vigilance nécessaire, en particulier par rapport à toutes les nouvelles formes de vie consacrée qui ont besoin davantage d'être accompagnées, parce que nécessairement plus fragiles.
Radio La Pourdire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Ayer, nous sommes de retour avec vous pour cet entretien diffusé sur Radio Présence et sur Radio La Pourdie. Nous parlons de l'Assemblée plénière des évêques français à Lourdes qui s'est tenue du 3 au 8 novembre. Où vous avez également parlé de l'accueil des prêtres étrangers. Vous êtes parti du constat que plus de 10% des prêtres en France viennent de l'étranger. Et vous avez donc réfléchi à ce sujet. C'est vrai que dans notre diocèse aussi, on a beaucoup de prêtres qui viennent d'ailleurs. Comment se passe cet accueil dans nos paroisses?
Alors c'est sûr que c'est une chose assez nouvelle pour notre diocèse quant à nous, parce que pendant des décennies, jusqu'à ce que j'arrive d'ailleurs, c'était tout à fait comme ça, l'essentiel du clergé est local, basco-béarnais, donc très enraciné dans une terre et dans un peuple au service duquel ils se sont levés pour servir. C'est vrai que avec mon arrivée a correspondu aussi à un basculement sur le plan de l'âge du clergé. Le clergé vieillit, beaucoup finissent par manquer à l'appel, et donc on se trouve confronté à des difficultés que d'autres diocèses connaissent depuis bien plus longtemps, c'est-à-dire comment assurer la mission proprement sacerdotale au service des communautés chrétiennes dans notre diocèse pour l'avenir. Alors c'est ce qui fait que, comme vous le savez, j'ai appelé dans le diocèse des prêtres venus d'Afrique. Quand je suis arrivé, il y en avait un qui est arrivé en même temps que moi, du Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de prêtres qui viennent d'Afrique. Puis il y a des prêtres qui viennent de Pologne, il y en a deux. Et puis il y a des prêtres qui sont venus nous rejoindre et qui sont maintenant incardinés ou en passe d'être incardinés. Puis il y a des communautés que j'ai appelées aussi, comme la Côté Saint-Martin, comme la Fraternité Saint-Thomas-Becket, pour nous aider, avec peut-être, venant d'ailleurs, nécessairement une posture plus missionnaire, comme nous partions en mission, Fidei Donum, dans beaucoup d'églises jeunes qui avaient besoin d'être accompagnées et aidées pour leur propre construction et expansion missionnaire. Donc c'est une réalité qui est au fond assez nouvelle, et c'est pourquoi nous avons éprouvé le besoin d'organiser ce qu'on appelait une session Ongi et Tori et Plabengut, c'est-à-dire bienvenue en basque et en béarnais, qui est un peu finalement le plagiat d'une session qui existe au niveau national pour les prêtres Fidei Donum en France, qui s'appelle Welcome. Bon, on a préféré le basque et le béarnais à l'anglais et au français, ce qui est tout à fait, somme toute, bien logique. C'était aussi une manière de dire comment on va permettre à ces prêtres venus d'ailleurs de mieux s'intégrer ou s'insérer dans une culture locale, qui est à la fois la culture humaine de nos terroirs, et puis qui est aussi une culture chrétienne et pastorale. Donc c'était une très belle session qui a eu lieu en octobre à Urte, chez les bénédictines, avec l'apport des vicaires généraux pour ce qui est de l'organisation territoriale et des services, avec l'apport de prêtres bien identifiés au Béarn et au Pays Basque pour nous parler de l'âme et de la culture béarnaise ou basque. Donc c'était l'abbé Jean Cazenave qui nous a fait un exposé extrêmement fin et brillant, et l'abbé Jean-Pierre Etcheverry pour le Pays Basque qui nous a parlé de la culture et en particulier de la langue comme véhicule particulier de cette culture basque.
Est-ce que des cours de basque sont prévus pour ces prêtres?
Alors, je ne sais pas s'ils sont prévus pour ces prêtres.
Dire la messe en basque, finalement.
Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous avez des prêtres africains, je pense en particulier à l'un d'entre eux qui est actuellement sur la paroisse d'Ossès et de Baïgori, qui célèbre la messe en basque de manière très, très aisée, et d'ailleurs qui fait l'admiration et qui attire la bienveillance des paroissiens. Comme je l'ai dit souvent, vous savez qu'au séminaire, je tiens à ce que la messe puisse être célébrée régulièrement en basque, pour tous les séminaristes, même ceux qui ne sont pas descendants basques, parce que ça fait partie de notre patrimoine diocésain. Il ne s'agit pas de couper en rondelles les réalités dans notre diocèse. Et puis, il y a quelques séminaristes qui apprennent le basque, hein, et qui ont bien le désir de le faire, ou bien parce qu'ils ont eux-mêmes des racines basques, même s'ils n'ont pas forcément grandi dans le diocèse. Je pense à l'un d'eux qui actuellement est en insertion pastorale pour un an à Cambo-les-Bains, et d'autres hein, qui désirent l'apprendre. Hein. Je vois un jeune Poitevin qui est chez nous et qui apprend le basque, voilà, parce que c'est une manière de voilà. C'est donc l'intérêt de cette session, c'était vraiment de permettre à ces prêtres de se dire, ben, on arrive dans un diocèse qui a son histoire, qui a ses pratiques, qui a sa culture, et c'est important aussi de pouvoir en prendre la mesure.
Lors de l'Assemblée plénière, vous avez également évoqué le sort des réfugiés et des migrants. Vous aviez un invité pour parler de ce sujet. C'était l'archevêque
d'Agrigente.
Voilà, en Italie.
D'Agrigente. Voilà.
Qui... Pour les gens, ce sera plus simple de dire que. De Lampedusa.
Voilà, l'île de Lampedusa qui est en effet dans ce diocèse. Et il s'agit donc du cardinal Monténégro qui est venu nous aider à réfléchir sur l'accueil des migrants. Et plus exactement des réfugiés, si on veut prendre le terme que le pape avait utilisé dans le fameux Angelus, je crois, du 6 septembre, si je me souviens bien, où il invitait chaque paroisse, chaque communauté religieuse à accueillir une famille de réfugiés qui fuit la mort ou la guerre ou la persécution ou la famine.
Que vous a dit cet archevêque?
Alors, il nous a rendu compte, finalement, à partir de son expérience, et l'expérience des habitants de Lampedusa, qui, depuis quelque temps, accueillent des migrants en transit, qui arrivent généralement des côtes de Libye, et qui sont malheureusement souvent aux prises avec des qui tombent entre les mains de passeurs sans scrupules, qui souvent les envoient non sans risque pour venir trouver asile en Europe, en passant donc par Lampedusa et finalement l'Italie. Hein. Et donc on sait combien le pape nous avait alerté sur ce drame, souvent, et ce risque que la Méditerranée devienne un grand cimetière humain, et qu'il était très important d'aller secourir ces réfugiés et de les accueillir chez nous. Alors, bien sûr que les choses ensuite ont abouti à une vision un peu plus large que celle qui nous était présentée à part de l'expérience et qui nous rappelait surtout qu'il y a un précepte évangélique, hein, qui est celui « J'étais un étranger et tu m'as accueilli », qui est une de ces œuvres de miséricorde corporelle que nous aurons tout loisir d'approfondir lors du jubilé de la miséricorde et qui est proposée par Jésus lui-même dans le fameux évangile du jugement dernier que l'on lit d'ailleurs cette semaine pour la fête de Saint-Martin. Donc ça, c'est évident. La charité nous presse et elle nous presse de venir au secours de mon frère qui concrètement a besoin de moi. Hein. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa culture, quel que soit ce qu'il est finalement. Hein.
C'est pas toujours évident pour certains chrétiens qui disent on préfère accueillir des réfugiés qui sont chrétiens.
Alors. Je dis pas que c'est pas toujours évident, mais ce que je veux dire par là, c'est que le sujet s'est un petit peu élargi ensuite dans notre débat, parce que nous avons passé la matinée hein, sur cette question, parce que maintenant, les réfugiés passent moins par Lampedusa que par les Balkans. Et c'est ce flux migratoire bien plus important qu'à Lampedusa que nous avons vu surgir tout à coup, grâce aux médias, il y a quelques semaines. Alors là, il y a eu une intervention assez intéressante qui nous permet d'ailleurs de bien situer le débat entre la charité et la justice, qui, comme je l'avais dit moi-même dans un communiqué en présentant et en relayant l'appel du pape, sont indissociables. Il y a la question de la charité et il y a la question de la politique, qui n'est pas le fait de la personne et du chrétien que je suis, mais le fait des États légitimement constitués pour assurer le bien commun de la société. Et il y a eu une intervention assez intéressante d'un évêque de Hongrie, précisément, qui était là, et qui a prouvé le besoin de justifier la position des Hongrois, caricaturée, comme il le dit, par les médias occidentaux, qui ont l'air de dire ce sont des méchants, xénophobes, qui ont élevé des murs et des grillages pour empêcher les réfugiés, les empêcher de venir chez eux. Ceci dit, entre parenthèses, vous savez que la Hongrie est un petit pays qui a beaucoup souffert, déjà des invasions de l'Empire ottoman, de l'agrégation à l'Empire autrichien, et qui a connu aussi le communisme, le rouleau compresseur du communisme soviétique, dont il est sorti il y a à peine 20 ans. Donc on peut comprendre aussi que ce soit plus difficile pour eux d'accueillir tout d'un coup des masses de gens. Mais c'est pas du tout dans cet esprit-là qu'il le disait. Il disait, dans un premier temps, nous avons vu ces réfugiés arriver, c'était des femmes et des enfants, c'était des familles complètement en situation de précarité, et il est évident que nous les avons accueillis. Et petit à petit, on a vu arriver des hordes de jeunes hommes, il n'y avait plus de femmes, plus d'enfants, de 18 à 35 ans, qui avaient tous un téléphone portable, une carte bancaire, beaucoup d'argent, mais pas de papier. Qui refusaient catégoriquement d'être enregistrés, or ça fait partie des lois, même sous le règne des accords de Schengen, et qui devenaient de plus en plus agressifs. À partir de ce moment-là, le gouvernement, le chef du gouvernement, qui est un grand chrétien, nous est-il, qui est protestant, même s'il est marié à une catholique, il a 5 enfants, a décidé, pour réguler et mieux permettre d'accueillir les réfugiés, parce qu'on continue de les accueillir, et de modérer ce flux qui, lui, est un petit peu différent, eh bien, nous avons rétabli une frontière. Mais on s'est rendu compte que, avec des outils que certainement ils n'avaient pas apportés avec eux, eh bien, ils ont défoncé ces grillages. Donc, lui, il alertait un petit peu notre attention, attirait notre attention sur le fait qu'il peut y avoir aussi une politique migratoire qui n'est pas contre la charité, mais qui peut être nécessaire aussi pour mieux réguler un flux, finalement, que personne ne maîtrise. Et vous le voyez bien qu'aujourd'hui, après avoir juré leur grand Dieu que les accords de Schengen mettaient en place un monde et une Europe sans frontières, même la France et même l'Allemagne sont en train de rétablir des frontières pour un meilleur, pas un tri, hein, mais un meilleur discernement.
Le 28 août, vous avez tweeté « Des migrants sont accueillis sans contrôle, des djihadistes circulent librement, les chrétiens d'Orient persécutés peinent à obtenir un visa ».
Voilà. Alors ça, pour moi, c'est important de dire ça, c'est une manière un peu lapidaire, je pense que c'est le genre littéraire du tweet, hein. Vous savez qu'on a 140 caractères, et puis pour attirer l'attention, ben on dit des choses un peu lapidaires. Mais ça voulait dire quand même qu'en effet, il y a un vrai dysfonctionnement. Et qu'aujourd'hui, moi je dis, il faut accueillir les réfugiés. Alors on a beau dire, il ne faut pas faire de différence entre les chrétiens et les musulmans, et je suis bien d'accord. D'ailleurs, quand je suis allé à Erbil, j'ai tenu à visiter non seulement des camps de réfugiés chrétiens, mais aussi de camps de réfugiés musulmans, minorités qui étaient aussi en difficulté auprès de Daesh, qui les considéraient comme des traîtres à l'islam. Mais cependant, premièrement, il faut se rappeler que dans ces pays-là, il y a une différence entre les chrétiens et les musulmans. Les musulmans ont toujours la possibilité de trouver un accueil dans des pays musulmans, même les minorités qui sont l'objet de la vindicte et des persécutions de Daesh et d'État islamique, alors que les chrétiens n'ont pas de pays pour les accueillir. Donc ça, c'est une chose importante. Tous les chrétiens, dans tous les pays musulmans, indépendamment de l'État islamique Daesh, que tout le monde qui attire la réprobation universelle, bien sûr, hein, ben, il y a une dimitude pour les chrétiens qui n'ont pas le même statut que les musulmans. Donc déjà, dire aujourd'hui, nous ici, qu'il ne faut pas faire de différence entre les chrétiens et les musulmans, c'est pas honnête. Parce que, et moi je dis d'ailleurs, il ne s'agit pas de faire une différence entre les chrétiens et les musulmans, il s'agit de faire une différence entre ceux qui sont les plus menacés, les plus vulnérables, les plus fragilisés, et ceux qui le sont moins. Et c'est vrai que ce sont les chrétiens d'Orient. Et moi je dis que c'est très gentil d'avoir un accueil universel pour tous les réfugiés, d'ailleurs ensuite sur place et sur le terrain, qui est-ce qui va vraiment s'occuper d'eux ? Parce que vous savez que ça, c'est pas encore dit, car ça demande de mettre en œuvre une vraie infrastructure qui n'est toujours pas prête pour accueillir les 30 000, paraît-il, qu'on attend pour 2016. Mais pendant ce temps-là, les chrétiens qui souffrent persécution, qui sont dans des camps de réfugiés depuis plus d'un an parce qu'ils ont été expulsés de leur pays, justement parce qu'ils sont des chrétiens, eh bien, tardent. Peine à obtenir des visas. Et c'est vrai que c'est un vrai scandale qui a été signalé au cours de la conférence de l'Assemblée plénière, que ces chrétiens-là mettent 6 à 7 mois pour obtenir un visa, alors que par ailleurs, on facilite l'entrée dans nos pays de ce qu'on appelle les illégaux.
Qui accueille-t-on dans notre diocèse aujourd'hui des chrétiens d'Orient?
Alors nous, pour l'heure, on accueille des chrétiens d'Orient. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'on s'est trouvé en lien avec Erbil par mon voyage et par l'association des Chaldéens de Pau. Donc pour l'instant, ben voilà, on avait déjà commencé à accueillir et on continue d'accueillir des familles de chrétiens. Mais moi, je serais tout à fait prêt à accueillir aussi d'autres minorités religieuses menacées, hein, là, qui n'en est pas là. Mais il se trouve que pour l'instant, c'est eux qui, par les familles de Chaldéens que nous avons, frappent à la porte de notre diocèse.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous terminons cette émission avec vous, Monseigneur Hayet, pour relater des événements diocésains qui nous ont marqués ces derniers temps. Tout d'abord, bien sûr, le pèlerinage diocésain à Lourdes, dont la messe finale a eu lieu le 27 septembre. Donc, est-ce que vous pouvez nous redire que le dimanche, c'est bien une journée diocésaine, puisque beaucoup de gens croient que c'est juste le pèlerinage de l'hospitalité basque-aubernaise, mais c'est vraiment une journée pour toutes les familles. Comment faire venir davantage les familles à cette journée?
Voilà. Je crois que c'est très important, en effet, de préciser que ce pèlerinage, qui est celui de l'HBB, l'hospitalité basque-aubernaise, depuis le jeudi ou le vendredi jusqu'au lundi. Donc les malades, 430 malades, les hospitaliers, 1200, comptant 200 jeunes quand même, hein, c'est-à-dire 170 lycéens de nos établissements catholiques ou publics, mais aussi une trentaine, cette fois-ci, de séminaristes qui ont aussi été hospitaliers auprès des malades. Le dimanche est consacré au pèlerinage diocésain, c'est-à-dire que nous, on est tellement proche de Lourdes qu'on ne va pas faire venir pendant 4 jours payer des hôtels pour faire un pèlerinage avec tous nos diocésains. Mais c'est une journée où on peut faire même une rentrée pastorale du diocèse, quoi. Mais de fait, ça marche, hein, même s'il pourrait y avoir beaucoup plus de gens. Je note que cette année, il y avait plus de monde que l'an dernier et qu'il y avait pratiquement 4000 personnes à la messe dans l'église Sainte-Bernadette le 27 septembre. Donc je vois quand même que les gens sont heureux de se retrouver pour ce temps en diocèse. C'est vrai que depuis 3 ans, on a insisté pour que le diocèse puisse se retrouver en lui-même, dans cette grande église Sainte-Bernadette, et pas perdu au milieu d'une messe internationale à Saint-Pilice, qui ne permettrait pas cette cohésion diocésaine.
Alors dans votre homélie du dimanche, vous avez insisté justement sur la communion. Est-ce que ce pèlerinage justement de l'hospitalité basco-béarnaise n'est pas un bon exemple de communion au sein de notre diocèse?
Moi je le crois, oui. Même si, bon, il y a toujours des petites difficultés. Certains, il y aura trop de basques, d'autres, il n'y aura pas assez de béarnais. Bon, très bien. Mais ça, c'est fini par être anecdotique. Et il vaut mieux en sourire, hein, parce que c'est pas des tensions très, très graves, finalement, hein. Non, je crois que c'est un beau moment de communion, dans toute la diversité, non seulement culturelle, mais aussi des sensibilités, des différentes familles religieuses, des différentes générations aussi, parce qu'il y a quand même aussi pas mal de jeunes, hein, comme vous le voyez. Je suis toujours très admiratif et très touché de voir, à la fin de cette messe du dimanche, donc journée diocésaine, le nombre de nouveaux hospitaliers qui s'engagent, hein, et qui font leur consécration à Marie, là devant tout le monde, et parmi eux, il y a quand même pas mal de jeunes, hein, donc je trouve que c'est, d'ailleurs, c'est reconnu, hein, à Lourdes, tout le monde dit, le diocèse de Bayonne, il y a plein de jeunes, alors que souvent, les pèlerinages diocésains sont quand même de plus en plus vieillissants.
Du 17 au 19 octobre, tous les regards étaient tournés vers Bayonne, tous les regards aquitains, puisqu'il y avait le rassemblement des lycéens pour Toussaint 2015, d'une rive à l'autre, c'était ça le thème du rassemblement des jeunes. Alors comment vous avez vécu, vous, ce rassemblement? C'était la première fois que notre diocèse, Bayonne, accueillait tous les jeunes d'Aquitaine.
Voilà, on s'était mis sur les rangs quand il s'était s'agit de se demander entre les deux provinces de Bordeaux et de Poitiers si on continuait à faire ces rassemblements tous les 3 ans, hein, comme vous le savez, de l'aumônerie de l'enseignement public et puis aussi de l'enseignement catholique qui s'est raccroché depuis, pour les lycéens. Et bon, je voyais que tout le monde n'était pas tous très chaud, ils ne savaient pas qui... Bon, alors moi, je me suis mis sur les rangs, puis avec notre équipe de la pastorale des jeunes, et en particulier de l'AEP, l'enseignement public, eh bien, on a décidé d'accueillir. C'est une belle expérience. Moi, j'étais très frappé, d'abord par l'organisation, hein, très soigneuse, des équipes de pilotage qui se sont mises en place au niveau de l'Aquitaine, et puis surtout la qualité de réception de ces jeunes lycéens, pourtant marqués par leur génération, leur fragilité, leur désarticulation parfois aussi, hein, dans le monde d'aujourd'hui, avec des souffrances familiales, souvent, comme on a pu s'en accorder, et en même temps, qui ont soif. Qu'elles soient d'une proposition qui tranche par rapport à l'ordinaire de leur vie. Et on a pu le vérifier à des moments très, des temps forts de ce rassemblement. Je pense en particulier au lavement des pieds dans le cloître de la cathédrale. Je pense aussi au sacrement de la réconciliation de la cathédrale où on voyait que ces jeunes avaient un grand désir de venir se confesser, des belles confessions avec des larmes, enfin, un vrai désir de trouver une libération, une guérison, une paix. Et puis les grandes célébrations aussi, comme l'Eucharistie du dimanche, qui a monté une qualité d'écoute, les catéchèses des évêques aussi. Et puis c'est en fraternité, comme vous le savez, les jeunes étaient mélangés de tous les diocèses et ils l'ont très bien vécu. Ils n'étaient pas en clan, en tribu, c'était pas Agen, Bayonne entre soi, mais c'était ils étaient tous mélangés et dans chaque fraternité il y avait une consacrée, un séminariste et ou un prêtre. Tout ça, c'est très beau parce que ils ont vécu avec un séminariste, avec un jeune consacré, avec un prêtre, relativement jeune généralement, ce temps fraternité, et ça a pu leur permettre des dialogues très profonds.
Alors on reste au Pays Basque avec un sujet dont on parle depuis quelques mois dans le journal, c'est au sujet de la maison d'Ossès. C'est une maison donc qui appartient à l'association Garbi et qu'une de ses membres ne souhaitait pas vendre à l'évêché. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les éventuels malentendus qu'on peut avoir au sujet de cet achat? Est-ce que l'évêché voulait acheter cette maison?
Alors il n'a jamais été question d'acheter, hein. Il a seulement été question... mais ça, c'était une demande qui avait été votée par l'Assemblée Générale de l'association Garbi, qui nous avait demandé s'il pouvait faire apport de cette propriété à l'association diocésaine. Encore une fois, c'était un apport civil, sachant que canoniquement, ça restait propriété de la paroisse, car c'est un bien paroissial, un bien d'église, hein. Et nous, on avait dit, OK, on est d'accord, de manière à pouvoir apporter peut-être une aide pour refaire un certain nombre de parties de cette maison qui était assez délabrée, pour permettre éventuellement un logement pour le prêtre, si jamais il y avait un prêtre à nouveau au CES, en tout cas s'il n'était pas au CES, de pouvoir avoir un pied-à-terre, qu'on soit pas obligé de louer une maison dans le village comme c'était le cas pour le curé précédent, et d'avoir des salles pour les activités paroissiales. Ça voulait pas dire qu'elles étaient fermées à toute autre activité, car il y avait des traditions et des habitudes qui étaient prises dans ce village de CES, ou d'autres associations villageoises louaient ou profitaient aussi de cette maison. Je crois qu'on est toujours dans un malentendu qui touche encore, hélas, pas mal d'associations paroissiales, propriétaires de biens d'église qui ont été légués, parfois, là ici c'est par des sœurs ou par des familles qui ont légué des biens, des maisons, pour l'utilisation et les activités des paroisses. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'autres, parce que la paroisse autrefois était en parfaite osmose avec la commune, avec le village, si vous voulez. Et parce que ces associations 1901, qui sont effectivement le seul support juridique possible pour l'Église, qui ne peut pas posséder d'autres propriétés que à but cultuel, eh bien, n'étaient pas assez bien ficelées. Ce qui fait qu'un jour, l'association et les membres des associations se sont crus parfois propriétaires de ces biens, contre l'Église, ce qui est inimaginable. Or, il se trouve que là, c'est seulement une personne de cette association qui a crié au vol, hein, alors que c'est l'association elle-même, de manière très régulière, qui avait voté cet apport. Ceci dit, nous, on ne court pas après, parce que de toute façon, depuis le temps a passé, les caisses du diocèse ne sont pas si abondante que ça, pour qu'on se mette sur les bras, hélas, de nouvelles restaurations à faire.
Parce que finalement, cette affaire ne montre pas la fin de l'harmonisation entre les œuvres dites sociales et les œuvres religieuses.
Alors, ça exprime une certaine dichotomie entre la vie des communes, même si je ne suis pas sûr que la personne qui, pour l'instant, a gagné son procès soit unanimement reconnue dans le village de Cesse, tant s'en faut. J'en ai quelques éléments quand même pour le savoir. Ça montre qu'il y a de plus en plus de dichotomie entre la vie d'un village et une paroisse, et des biens paroissiaux dont on ne sait plus le sens. Voyez. Alors c'est sûr que l'association, elle est composée pour beaucoup de membres de l'enseignement catholique, parce qu'il y a une école catholique qui profite aussi un peu d'une partie de cette maison. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi des réalités que nous découvrons dans notre diocèse. Moi, ce que je crois, c'est que si c'est un bien d'église, ça ne peut pas se faire contre l'église. Et le diocèse n'avait aucun intérêt à récupérer cette maison. Si l'apport était voté, c'était pour aider à ce que cette maison puisse servir aux activités paroissiales du village et de la paroisse de Cesse.
On reste dans l'immobilier avec l'inauguration de l'espace Sestac que vous avez fait en début d'année. Il va ouvrir à Bayonne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots de quoi il s'agit ?
La pose de la première pierre.
Voilà. Alors, en fait, l'espace Sestac, comme vous le savez, c'est un projet à deux entrées. D'abord, c'est l'extension du séminaire, qui se fera dans la partie que nous avons récupérée d'une certaine manière, qui était jusqu'à présent l'école d'art plastique, hein, qui a été transférée dans l'ancien grand séminaire, c'est-à-dire à ce qui s'appelle maintenant la Cité des Arts, où était déjà le conservatoire de musique, et la construction, dans le prolongement de cette extension du séminaire, de la bibliothèque diocésaine. Voilà. Donc il y a deux réalités en une seule qu'on a baptisé l'espace Sestac, c'est-à-dire l'extension du séminaire et la bibliothèque qui sera appelée en effet bienheureux Édouard Sestac, Louis-Édouard Sestac. Et donc on a fait la pose d'une première pierre symbolique pour commencer les travaux et appeler surtout lancer une opération mécénat, hein, de manière à ce que nous puissions trouver aussi des fonds pour couvrir la dépense, qui est quand même assez importante, de cet espace Sestac.
C'est un projet à 3,5 millions d'euros, c'est ça ?
Voilà, 3,5 millions d'euros, sachant qu'on a réalisé des terrains, de manière aussi à trouver des financements propres.
Vous attendez quoi, là ? Des dons des
On attend des dons d'entreprises, de diocésains, toutes sortes de bienfaiteurs. Cet appel à mécénat, en quelques semaines, a déjà rapporté plus de 100 000 euros. Donc, nous sommes tout à fait confiants dans l'avenir.
Il ouvrira quand, cet espace Sestac ?
Alors, le séminaire devrait être livré, enfin, l'extension du séminaire sera livrée en juin 2016, donc pour la rentrée prochaine. Et l'espace de la bibliothèque devrait être opérationnel à la fin de l'année 2016.
Je signale qu'il y a un site qui présente tout le projet sur l'espace Sestac. En Monseigneur Ayer, pour terminer, le pape François va ouvrir le 8 décembre prochain à Rome l'année sainte pour la miséricorde.
Le jubilé extraordinaire de la miséricorde.
Comment ça va se passer, cette année sainte ?
Alors à Rome, il va y avoir un tas de grands rendez-vous pour différentes catégories de membres de l'Église, comme chaque année, de saintes, donc présidées par le Saint-Père. Et je pense que nous participerons à l'une ou l'autre. Par exemple, je crois que c'est important pour les adolescents de 13 à 16 ans de les emmener à Rome pour la célébration du jubilé le 24 avril. Les prêtres, ça nous permettra aussi de faire une activité commune. Pour le jubilé des prêtres qui aura lieu pour la fête du Sacré-Cœur, si je ne m'abuse, début juin, à Rome. Et pour le reste, nous tâcherons d'ouvrir, comme le pape nous le demande, une porte sainte de la miséricorde à la cathédrale de Bayonne. Alors évidemment, c'est un peu excentré pour les Béarnais, mais c'est la cathédrale quand même, c'est le siège de l'évêque de Bayonne, et donc du diocèse de Bayonne, et en essayant d'inviter les paroisses, les communautés, les groupes de catéchisme, les mouvements, à organiser tout au long de l'année un petit pèlerinage dans l'esprit d'une année sainte, pour franchir cette porte sainte à la cathédrale, où il y aura des propositions qui seront faites pour approfondir précisément le sens de la miséricorde dans la vie de notre Église diocésaine, hein, et peut-être provoquer des démarches concrètes, non seulement des œuvres corporelles de miséricorde, mais aussi les œuvres spirituelles de la miséricorde, et en particulier des démarches de pardon, de réconciliation. Et je pense que ça peut être une très belle grâce pour notre communauté chrétienne.
Il y a quand même une date à retenir, je vous laisse la donner.
C'est le dimanche 13 décembre à 19h, c'est un peu tard, j'en conviens, mais à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne pour l'ouverture officielle de la porte de la miséricorde.
Donc dimanche 13 décembre à 19h, tous les diocésains sont attendus à Sainte-Marie de Bayonne. Merci beaucoup Monseigneur Ayer, et merci à Violaine Ricourt-Dumas. Au revoir.
Si.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escoute Israël.
Monseigneur Marc Ayer, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.